Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci de nous rejoindre dans Radio Foot International pour cette dernière émission de la semaine. C'est le Café des Sports avec les invités qui sont déjà là, avec un Rémi Ngono esselé aujourd'hui. Bonjour Rémi.
Bonjour, parce que il y a des démissionnaires. Allez, salut.
Il y a des absents.
Voilà.
Il est en vacances, comme les congés scolaires, Xavier Barret. À vos côtés, on a donc invité Hervé Penaud. Bonjour Hervé.
Bonjour à tous. Et quel plaisir d'être dans ce café-là.
Attention.
Moi qui ne vais jamais dans les cafés. C'est dingue.
Et puis Jean-Philippe Bouchard est aussi avec nous. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Alejandro Valente, bonjour.
Bonjour, veille des classicos, alors je suis là.
Voilà, le réfé est toujours présent. Et justement aujourd'hui, ce dimanche de classico au Camp Nou de Barcelone entre Blaugrana et Merengue, et qui se retrouvent face à face, chacun sans leur star, sans Lionel Messi blessé au bras et sans Cristiano Ronaldo exilé sous d'autres couleurs. Mais un classico reste un classico, un match toujours si particulier où les Merengue viendront défendre deux années d'invincibilité en Catalogne et leur entraîneur Lopetegui sur la sellette. Les Blaugrana, eux, rêvent sans doute d'offrir la victoire à leur capitaine. D'un port méditerranéen à un autre, et un autre classico, enfin, qui serait déjà bien s'il se contentait d'être un vrai classique. On aimerait un peu de folie sur le vélodrome entre OM et PSG. Les deux équipes populaires ont rendez-vous au lendemain de matchs européens qui les ont bien secoués. L'opportunité pour les Phocéens de rebondir à domicile face à une équipe blessée dans son honneur, mais les Parisiens ne font cette saison qu'une bouchée de leurs adversaires. Alors, suspense ou pas ? Et puis la FIFA entre contre la délocalisation de matchs de championnats nationaux. Réunis à Kigali, les dirigeants du football mondial se sont dit défavorables à ce match de Liga aux États-Unis. Mais la Liga résiste et va faire appel. On en parlera et on parlera aussi des projets de Gianni Infantino. Radio Foot, c'est parti.
C'est un match différent de tous les autres.
C'est l'événement. Hein. En France, on parle de l'OM Paris. Le vrai classico, c'est celui-là. C'est pas celui, ce que nous, on invente.
C'est un match aussi qui c'est plaisant à regarder, plaisant à jouer.
Sur le terrain, tu as ces joueurs, ils sont incroyables. Quoi. Que ce soit de Barcelone ou de Madrid.
Le classico de la Liga Barça-Real dimanche après-midi, un classico qui a déjà des couleurs puisque le tifo prévu par le club qui couvrira les tribunes, eh bien, est déjà aux couleurs évidemment catalanes et avec un message en anglais. Internationalisation de la rencontre oblige, mais cette rencontre suivie aux quatre coins de la planète par au moins, dit-on, 600 millions de personnes, se jouera pour la première fois sans ces deux grandes stars, sans Cristiano Ronaldo, sans Messi, qui tous les deux eh bien, avaient inscrit 44 buts dans ces matchs au sommet. Est-ce que le classico perd de son brio avec leur absence, Rémi ?
Bien sûr, c'est comme une célébration papale sans le pape. Donc,
Rémi.
Donc, d'ailleurs, je suis surpris que les coûts de tickets aient été maintenus quand même entre 151 et 427 euros la place au Camp Nou pour aller voir certainement Gareth Bale, le plus mauvais numéro 11 de la planète Terre, contre Ousmane Dembélé, l'autre très mauvais numéro 11 de la planète Terre. Donc quand même, quand on me dit que voilà les stars qu'on ira voir au Camp Nou, j'ai dit ce classico, c'est un classique zéro qui, bien sûr,
vous dites
reste...
ça avant le coup d'envoi.
Voilà, c'est pas aussi impressionnant que ça. Le classico était juste la première confrontation, la première rivalité entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.
Ben hein oui, mais...
Les deux n'y sont pas.
Ça existait avant, hein, quand même. Hein, c'est...
On en est au 230e ou 240e.
Mais sauf que ces classicos-là, même si ça existait avant, ça n'avait pas assez de piment que ça a déjà. Et même quand ça existait avant, ça avait déjà quand même aussi des grandes stars telles que tout le monde connaît. Quand il y avait les Ronaldinho, les Figo, les Zidane. Aujourd'hui, quelles sont les stars? Bon, peut-être la star, c'est celui qui a beaucoup de dents, qui va beaucoup mordre. Bon, voilà, peut-être soit Suarez, il va mordre, peut-être, bon, on ne sait pas.
Je ne suis pas du tout d'accord avec vous, parce que les stars
vous allez pas regarder,
dans
bien
le football,
sûr.
C'est les équipes, c'est pas... Et justement, ces dernières années, ces classicos étaient un petit peu détournés par cette rivalité individuelle entre Messi et Cristiano Ronaldo. Mais le vrai classico, l'essence du classico, c'est l'opposition entre deux grands clubs, les deux plus grands clubs d'Espagne, le Barça et le Real Madrid. Et aujourd'hui, il retrouve un petit peu cette dimension, et je pense que c'est une bonne chose aussi.
Hervé.
Ben moi, je me situe un peu entre les deux. Parce que, bon, l'excès de mon ami Rémi, bon, je le connais, expliquer que Bale, c'est un des
c'est
plus mauvais
Vatican,
de la planète.
C'est clair.
Bon, c'est un petit peu beaucoup. Mais ça reste un match immense, énorme, notamment en Espagne, où là, ça change rien, que vous ayez Messi, pas Messi, Ronaldo, pas Ronaldo. En revanche, mondialement, je pense qu'effectivement, c'est un affrontement qui va perdre petit à petit un peu de sa saveur à partir du moment où les meilleurs joueurs du monde n'y sont plus. C'est-à-dire que, par exemple, l'impact que peut avoir Barcelone et Real Madrid en Afrique, prenons l'Afrique, c'est lié aussi beaucoup à la rivalité qu'il y a eu entre Ronaldo et Messi. Le jour où vous n'avez plus Ronaldo et Messi, il faut des stars pour faire monter aussi cette sauce-là. Sinon, peut-être qu'à un moment, bah, vous allez bifurquer vers un retour pour pas mal de pays vers le championnat anglais, parce que ça reste le championnat où il y a plus de monde, voire une petite bifurcation vers le championnat italien qui a récupéré Ronaldo. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, il y a plein de pays qui s'intéressent de plus en plus à la Juve. Donc c'est vrai qu'il y avait quand même un côté, ça représente ce duel entre les deux meilleurs joueurs du monde, une sorte de vitrine.
Sauf qu'il n'y a pas en Italie la rivalité, la même rivalité qu'il y a entre le Barça et le Real. Donc forcément, là, c'est vrai que ces dernières années, il y avait le piment du classico plus le match dans le match entre Messi et Ronaldo, match dans le match qui d'ailleurs était assez souvent décevant hein, parce que on n'avait pas vraiment c'était difficile, enfin ça a pas débouché sur des sommets techniques où ils étaient rarement en phase et en forme les deux au même moment, mais bon, ça a duré 10 ans et ça, c'est vrai que ça a tenu en haleine la planète football, ce match là maintenant le classico cette année il reste particulièrement intéressant parce que on a un Real Madrid qui est en perte de vitesse et qui se cherche, et donc forcément ça met sur la scène du foot mondial quasiment deux clubs énormes.
Alors certes le Real est un peu mal en point on va dire en ce moment, mais c'est vrai que c'est une équipe qui vient d'abord défendre une espèce de trophée qu'elle a, c'est 1300 jours, c'était sous la direction de Zidane, sans perdre au Camp Nou. Pas forcément en gagnant toujours, mais en tout cas, il y a 2 victoires et 2 matchs nuls depuis le 22 mars 2015. Alors, ces Blaugrana un peu brinque-ballant, est-ce qu'ils vont réussir finalement à tenir un peu la dragée haute au Blaugrana ? Ernesto Valverde, vous allez l'entendre, il se méfie d'un animal blessé.
Aunque venga en crisis, vendrá aquí.
Je sais que l'équipe de Madrid, même si elle traverse une crise, se rendra ici avec tout son potentiel. Et elle en a beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de bons joueurs. On ne va pas se mentir, je ne cherche pas du tout à me cacher derrière le sentiment qu'ils ne sont pas dans leur meilleure forme et que nous allons mieux. Non, on va remettre les compteurs à zéro et c'est de cette façon qu'ils procéderont eux aussi.
Alors Alejandro, pour justement que le Real puisse résister au Blaugrana qu'on a vu plutôt en forme ces derniers temps, même sans Messi, quelle tactique pour le Real Madrid ?
Alors, ils disent qu'ils vont s'inspirer un petit peu de ce qu'a fait Séville après la blessure de Messi. Ils ont réussi quand même à mettre en difficulté la défense barcelonaise en étant très agressif au milieu du terrain. Ils ont profité du fait que Valverde avait remplacé Messi par Dembélé. Je pense qu'il ne fera pas la même chose dimanche. Et voilà, ils vont essayer de mettre surtout beaucoup plus d'impact devant le but. Parce que le problème du Real Madrid, c'est pas qu'il joue mal. Il y a des moments où ça joue plutôt pas mal. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à marquer. Ils ont beaucoup de mal à marquer. Il y a un écart des 10 buts inscrits entre Barcelone et le Real depuis le début de la saison en championnat. C'est assez important. Et donc, c'est là que peut-être on sent le plus l'absence de Cristiano Ronaldo du côté du Real Madrid. Mais sinon, pour le reste, dans le jeu, c'est pas inintéressant ce que fait le Real. Après, ils ont des faiblesses parce qu'il y a des joueurs blessés, notamment notamment sur les côtés, c'est pas très performant, mais il y a de la qualité pour éventuellement mettre en difficulté Barcelone.
Jean-Philippe.
Après, il y a quand même une ambiance très particulière au Real. C'est-à-dire que là, on a quand même un entraîneur qui, plus que sur la sellette, qui était quasi donné comme démissionné.
Il paraît même qu'après le match de Coupe d'Europe, le président aurait, dans sa furie, voulu le virer juste après le match.
Ouais, et ça, dans un club comme le Real, c'est quand même le signe que ça va pas bien et que forcément, enfin, l'entraîneur est à ce point en difficulté.
Mais les joueurs ont l'air de vouloir se mobiliser, peut-être jouer pratiquement pour que cet entraîneur puisse rester, et ça passe par une victoire.
Je suis pas sûr qu'ils vont se battre pour lui. Après, le problème du Real, c'est pas la valeur pure et le talent pur, c'est de garder la même densité de jeu sur toute la saison. On voit bien que même du temps de Zidane, ils avaient du mal à enchaîner la même intensité de match sur plusieurs semaines. Il y avait déjà un peu des chaos quand même dans cette équipe. Là, il y en a eu dès le début de la saison, et ça s'est vu tout de suite, mais c'est vrai que c'est le problème du Real, c'est de maintenir son niveau de jeu au plus haut niveau.
Rémi ?
Maintenir le niveau de jeu au haut niveau, c'est quasi impossible actuellement, parce que quand on essaie de voir, même si Alessandro a quand même souligné qu'ils ont des difficultés à marquer, parce qu'on se rend compte que Asensio, Bell et Benzema en Liga, ils font quand même 1171 minutes sans pouvoir marquer, sans pouvoir retrouver le chemin des filets. Et quand on voit par exemple que contre Plzen, c'est totalement, ils font 34 tirs, vous rendez compte, plutôt contre Levante qui a 57 millions d'euros quand même de budget, ils font 34 tirs, ils font contre le CSKA, ils font carrément 26 tirs, mais donc ils perdent contre qui? Le CSKA, les Alavés, Levante, c'est hallucinant. Et comment est-ce qu'ils vont gagner contre le Barça? C'est ça le véritable problème, parce qu'aujourd'hui le Real a des faiblesses un peu partout, que ce soit au niveau du milieu de terrain. Ce n'est plus exactement la sécurité sociale qu'on voyait, même Casemiro est en baisse au niveau de la défense.
Le départ de Kovacic a fait mal.
Et ça fait mal, et au-delà de ça, Ramos est beaucoup plus porté à l'offensive parce qu'il veut jouer en neuf. Et qui est-ce qu'on voit marquer tous ces derniers temps?
Peut-être c'est, pas jouer en neuf, mais il manque de neuf
peut-être. C'est Marcelo. Tout de suite, on a trouvé que j'exagérais un peu, parce que lorsque vous vous rendez quand même compte que Marcelo, il a marqué les deux derniers buts du Real, et que Gareth Bale, son dernier but date du 19 septembre. Donc, à une certaine période,
on se dit... Il a été blessé aussi.
Ah, mais blessé, mais avant cela, il a quand même joué contre Séville quand on a pris la déculottée 3-0. On ne l'a pas vu, donc ça fait depuis qu'il n'avait pas marqué. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il a marqué contre le Real et qu'on sort au début de championnat, les trois premiers matchs, on a cru que Gareth Bale, c'était quelqu'un, mais aujourd'hui... Il y a beaucoup d'insuffisances offensives.
Hervé, oui, est-ce que alors si le Real n'allait pas gagner, peut-être simplement aller faire match nul?
Bah déjà match nul pour eux, ce serait une bonne performance, parce qu'aujourd'hui ils en sont à ce niveau-là. C'est un championnat un peu particulier cette année, le championnat d'Espagne. Hein, on n'a pas les 2-3 cadors qui se détachent, mais
tout le monde est en mode diesel. Hein.
Voilà, même avec un mauvais départ, ils sont pas complètement largués. Mais je suis assez d'accord sur l'idée quand même qu'on est un petit peu dur sur le jeu du Real. Attention, je parle pas sur les résultats.
Sur les
du
résultats,
Real,
oui.
Mais le jeu du Real, notamment par
c'est
les
Levante. C'est ce que dit Lopetegui d'ailleurs.
Mais je suis assez d'accord avec lui, parce que Levante, si vous aviez Cristiano Ronaldo, vous auriez marqué ce but qui déclenche tout, et vous auriez peut-être gagné 4-5-0 comme d'habitude, ou comme l'année passée, pas comme l'année passée, parce que l'année passée il y a eu la différence entre la Ligue des Champions et le championnat, parce que les gars en avaient marre. C'est pour ça d'ailleurs que Zidane est parti. Il a bien compris que ce serait très difficile de réenclencher une dynamique avec ce groupe-là s'il n'y a pas des vrais changements, s'il n'y a pas l'arrivée de joueurs qui allaient apporter quelque chose. Et il savait certainement qu'il y avait le départ de Cristiano Ronaldo. Mais je pense que Cristiano Ronaldo, la personne de Cristiano Ronaldo, le simple fait d'être là, ça change tout pour cette équipe de Real, et c'est là qu'on se rend compte à quel point un joueur de ce calibre-là change une équipe.
Oui,
vous pouvez dominer pendant 90 minutes, ne pas marquer, le jour où lui marque, ça change.
Puis
tout.
Sa présence surtout, ne serait-ce que ça. Hein.
Et puis il a un impact sur les coéquipiers, un peu de la même façon qu'avait Zlatan à Paris. C'est pas forcément, il était pas forcément décisif tout le temps, mais il tirait son équipe toujours vers le haut, en haranguant, en étant toujours présent. Et c'est vrai que Ronaldo, il a son talent de joueur, mais il a aussi sa personnalité
de compétiteur,
qui, voilà, et qui mobilise une équipe et qui évite les relâchements et qui,
enfin, ça compte beaucoup. Arriver à 5h du matin à l'entraînement, faire 8322 pompes, 19600 abdômes, les autres arrivent, il a déjà perdu 12 kilos.
Vous avez autant de chiffres que Rémi Hervé.
Demain, on viendra plus tôt.
En tout cas, Gareth Bale disputera son 201e match sous les couleurs merengue. Alors le Barça, lui, eh bien, il s'agit quand même de convaincre d'abord de jouer sans Messi. Alors ils l'ont montré face à l'Inter, ça s'est plutôt pas trop mal passé. Mais surtout, Alejandro, on a l'impression que finalement, il y a quand même une relève qui commence à apparaître du côté et du Real. Et un joueur qui a été beaucoup loué après ce match contre l'Inter, c'est le Brésilien Arthur.
Et oui, parce que les Barcelonais ont cru voir dans l'ancien joueur de Grêmio un petit peu la réincarnation des Xavi. Alors,
Il faut pas aller trop vite.
Mais c'est vrai qu'il a fait un très grand match contre l'Inter. C'est un joueur qu'on attendait, mais peut-être pas aussi vite au plus haut niveau. L'absence de Messi l'a un peu propulsé au devant de la scène. Il n'a que 22 ans et c'est vrai qu'on sent qu'il a cette capacité à mettre les pieds sur le ballon, à faire la bonne passe, à changer le rythme, etc. Donc il y a des qualités qui sont intéressantes et qui font un peu le pendant de Philippe Coutinho sur le côté gauche. Donc on voit que ce Barcelone qui a tendance désormais à évoluer plutôt en 4-4-2 ne fait pas le bonheur sans doute des Dembélé, mais a trouvé d'autres ressources, d'autres moteurs, et c'est plutôt une bonne chose. On a vu une équipe beaucoup plus collective face à l'Inter, alors qu'habituellement il attendait que Messi trouve la solution. Et voilà, c'est le bon côté des choses de la blessure de Messi.
Le bon côté des choses, oui Rémi ?
Mais beaucoup de mauvais côtés.
Non, parce que je voulais en venir à un mauvais côté aussi. Allez-y Rémi.
Oui, parce que beaucoup de gens m'ont toujours dit que Messi avec le Barça, ça marche super bien. Mais moi, je crois que pour une fois, El Rey revient sur Terre. Et comprend que Messi n'est pas le Messi. Et d'ailleurs, il y a des statistiques qui le disent. Oui, les statistiques le disent. Je peux vous le dire.
Il vaut mieux jouer sans Messi.
C'est vrai. Oui, mais je peux vous dire. Et il n'a pas le même impact que Cristiano Ronaldo avait avec le Real.
Il est souillé d'or
Vous faites rire, Alejandro.
Alejandro, je vais tenir. Par exemple, c'est-à-dire que lorsque vous voyez que avec Cristiano Ronaldo, c'est-à-dire 95% des victoires du Real, c'était avec lui. Mais sans lui, c'est 40% avec Messi. Le Barça a joué 89 matchs. Le Barça en a gagné 57. Non, c'est le total. Je te dis bien. 57. 57. 57 ont été sans lui. J'ai dit sans lui. 57 ont été gagnés. Le Barça a perdu 15 fois, a fait 17 matchs nuls et le quota de victoire, c'est-à-dire le quota de succès jumelé, ça fait 83,2%.
Ce qui signifie que. Je sais pas où vous voulez
faire. Si vous voulez,
on a compris, Rémi. Donc, c'est mieux de jouer sans Messi.
Pour vous dire aujourd'hui qu'avec Messi, bien sûr que ça fait 88,9%, mais la marge n'est pas très grande. La marge n'est pas aussi importante que.
Mais tu nous parles de 150 matchs. Tu nous parles de 150 matchs. En tout, si j'ai bien calculé, ou 140. Mais Messi, ça fait 10 ans qu'il est à Barcelone. Il en a joué
89 fois plus. Hervé, moi je voudrais vous poser une question, c'est autour d'un des points noirs par contre de cette équipe de Barcelone en ce moment, c'est Ousmane Dembélé. Alors on se souvient qu'il avait eu des phrases qu'il y a un an en arrivant, il voulait pas son cuisinier, nanana, histoire de d'hygiène de vie. Et là tout d'un coup ça revient. Alors maintenant c'est les retards, retard du train, retard de la voiture, c'est compliqué.
Il a pas de chance.
Il a pas de bonne montre.
Oui, il va falloir qu'il se professionnalise visiblement et surtout sa difficulté, elle est même pas là. Moi, je trouve bon ça parce que c'est gérable d'une certaine manière, être à l'heure, bon, même s'il y a des joueurs qui sont toujours en retard,
ouais,
ça arrive.
C'est quand même un signe, parce que enfin il est coutumier du fait déjà depuis qu'il était à Rennes et
Dortmund
après, enfin ouais. il a quand même toujours
cette
eu
réputation
des problèmes de discipline,
il est sérieux
et, pas de discipline et, au sens faire
et,
n'importe quoi hein.
Et de ces joueurs hyper talentueux comme ça qui trouvent en gros leur environnement un peu trop étroit pour eux, quand ils parviennent dans un très grand club, d'un seul coup, comme par enchantement, ils se plient à la discipline du club parce qu'ils sont entourés d'autres stars. Si lui, enfin plus grande qu'elle quand même, si lui ne comprend pas que le Barça est plus grand que lui et plus fort que lui, ça va être difficile parce que c'est quand même ça le message. Quand on arrive dans ces clubs-là, tout le monde se plie à la discipline, et y compris les plus grands. Messi, il est toujours à l'heure à l'entraînement. Et donc, normalement, ça, ça a un impact décisif sur les joueurs qui ont des comportements...
Et là, ce n'était pas un match officiel, il est arrivé en retard. 25 minutes de retard.
Pour le match de Ligue des Champions.
Des Ligues des Champions, 25 minutes de retard.
Mais je ne pense pas que ce soit un syndrome de la grosse tête, c'est ça qu'il faut voir. C'est vraiment, c'est sa personnalité.
C'est manque de sérieux, alors.
C'est même pas de sérieux, c'est, il y a des joueurs tête en l'air. Benjamin Mendy, pareil. C'est pas parce qu'il se prend pour un autre à Manchester City, mais il a eu exactement le même problème. Et d'ailleurs, Guardiola n'avait pas fait jouer dans un match en disant, bon, attends, t'arrives même pas à l'heure. Alors, c'est à eux de se responsabiliser.
Rabiot,
mais
une fois
le
aussi.
Problème, moi, à mon avis, pour Dembélé au Barça, il est plus lié à son jeu. Parce que vous savez, quand vous jouez au Barça, vous êtes obligé d'être techniquement très, très, très juste dans toutes les, dans tout ce qui est transmission. Et lui, malheureusement, il a pas cette justesse technique. Alors, il est très fort sur ses dribbles, sur sa capacité
courses,
à éliminer les 3 à 4, voilà.
Et c'est ça qui fait
arriver
en retard
et tout. Non, c'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est ça qu'il va falloir qu'il travaille. S'il veut s'imposer à Barcelone, c'est là-dessus. Moi, j'aurais été lui, parce que je pense depuis le début de saison, j'aurais préféré être prêté dans un club pour pouvoir jouer, m'aguerrir, plutôt que de se retrouver en porte-à-faux, parce que en dépit du début de saison qu'il a fait,
mais il voulait partir. Mais non, le problème, c'est que son entourage a pris les contacts en première ligue. Mais le problème, c'est Bartomeu et plus. Et à Abidal qui se sont opposés. Ils voulaient véritablement
pas le prêter. Vous
voulez pas le prêter.
Au début, Valverde
le vendre éventuellement, mais le prêter pour eux, pour le club, je comprends. Mais lui, pour malheureusement pour Dembélé, finalement, il joue sur entre guillemets ses faiblesses. Alors s'il arrive à l'entraînement à montrer qu'il est capable de s'insérer dans ce jeu-là, là, il va devenir intéressant, il va grandir. Maintenant, on n'a pas la réponse aujourd'hui. On se rend pas vraiment compte de ce qu'il sera capable de faire. J'ai un peu peur pour lui que ce soit pas un club qui lui corresponde. Au Real, ce serait peut-être différent. Mais à Barcelone,
bah, c'est contre Séville, il a pas été bon quand il a remplacé Messi, et à la fin du match, certains ont entendu.
Mais il a quand même aussi marqué 5 buts en 11 matchs. Et il a quand même marqué 5 buts en 11 matchs.
Non, mais c'est pour ça, en dépit des buts.
Et parfois, on voit Suarez ne pas faire mieux. Je crois que.
Non, mais c'est pas une question de but, là. C'est une question de jeu, d'esprit collectif.
De s'intégrer dans ce collectif.
C'est vrai que le style aussi de jeu du Barça qui perdure, quels que soient les entraîneurs, les années, il y a quand même une touche, une Barça touch, c'est quand même assez clair. C'est pas forcément ce qui lui correspond le mieux. Donc là, c'est à lui de s'adapter.
Oui, ils espéraient peut-être que son titre de
pouvoir lui donner un peu plus de chance. Faudra voir.
La campagne de Russie lui aurait mis un peu de plomb dans la tête, mais apparemment, c'est pas forcément le cas. Allez, passons. Prenons un bateau et on va dans un autre port méditerranéen.
Dimanche, on va pas les reconnaître parce que dimanche ils vont jouer à fond. Ce soir ils ont pas joué. Ouais. Mormais les mecs, dimanche il y aura plus d'envie, il y aura plus d'impact. Une rouste, parce qu'eux ils vont avoir les dents, nous on n'est pas bons, donc une rouste. Cette année ils vont pas faire le même match Paris. C'est surtout Paris qui a été pas bon l'année dernière, c'est tout. Là, cette année ils vont nous démonter.
Il y a moyen. Honnêtement, dimanche, c'est moi. Parce que Paris, ok, ils ont fait 30 sur 30, mais chaque fois ils concèdent des occasions, les équipes adverses ne sont pas efficaces. Donc si on est efficace dimanche, on va prendre cette victoire. Même doublé de Mitroglou. Mais honnêtement. Non, faut être confiant, les gars. Oh. On est Marseillais. Oh.
Pas trop optimiste, les supporters de la Canebière interrogés sur le site Football Club de Marseille. Ils confortent en tout cas l'idée que l'OM est capable du meilleur comme du pire. L'équipe qui est actuellement quatrième du championnat mais qui reste pourtant si loin du Paris Saint-Germain. Alors à quoi ressemblera cette confrontation? L'an dernier, on s'en souvient, ça avait été sans doute un des meilleurs matchs du championnat de France. Deux équipes qui ont vécu une mauvaise semaine européenne. Mercredi soir, Paris a été dominé par Naples mais Paris a arraché le match nul. Hier soir, Marseille a été dominé, écrasé par la Lazio. Alors l'OM qui accuse le coup, hein, les joueurs aussi. Écoutez le défenseur Adil Rami.
C'est dur parce que bien évidemment pour les pseudo-connaisseurs du football, ben on va montrer du doigt la défense. Mais c'est, comme je l'ai dit, c'est un état d'esprit, c'est un collectif. À un moment donné, à force de courir après les attaquants, de voir les porteurs de ballon pas pris, ça commence à être dur physiquement. Et puis après, la corde elle pète. Donc malheureusement, bon, ben c'est nous qui prenons, on accepte et on fait profil bas, on marche à l'ombre, sur des œufs, on attend que ça passe.
Ils attendent que ça passe. Jean-Philippe, ça vous fait sourire.
C'est la formulation, on marche à l'ombre sur des œufs. J'aime beaucoup ça. Je pense que celle-là, elle peut rester un moment parce que...
On va la garder. Cet OM peut-il se redresser dimanche soir parce que c'est un match face à Paris, parce que c'est le Vélodrome qui sera un peu en fusion? Est-ce que c'est le moment de rebondir pour Marseille? Ou la bonne occasion.
Effectivement, il vaudrait mieux qu'ils rebondissent. Moi, je suis assez pessimiste parce que je trouve depuis le début de saison qu'on en fait beaucoup sur Marseille, qu'on trouve que cette équipe, je trouve qu'on surestime cette équipe par rapport à ce qu'elle montre sur le terrain. Je trouve qu'elle est très dépendante d'un joueur qui est Thauvin. Voilà, qui était pas là hier, mais qui la porte bien plus haut que ce qu'elle vaut dans son ensemble. Et là,
c'est leur Cristiano Ronaldo.
Je sais pas, mais non, mais
on a ce qu'on mérite.
Thauvin, il a eu un parcours un peu compliqué. Je crois que là, il a trouvé ses marques et il a donné un rendement. Il a eu un rendement
depuis
l'an dernier qu'on lui avait jamais connu. Et je pense qu'il est en grande partie responsable du très beau parcours de l'OM en Ligue Europa. Et je pense qu'on a des attentes qui sont un peu démesurées par rapport à la valeur de cette équipe et de ce qu'elle montre jusqu'à présent. Et là, face à une équipe européenne absolument pas géniale ou transcendante, on voit bien que ça passe pas et que là ils sont complètement hier ils étaient complètement dépassés, c'est
très
inquiétant,
triste même à voir,
c'était très inquiétant quand même. Avec aussi même pas de capacité de réaction quand même.
Alors Alejandro, vous trouvez qu'on est trop sévère avec l'OM?
Non, on n'est pas forcément très sévère. Enfin, quand on entend Rami, effectivement, on peut penser que les non-connaisseurs du football vont trouver que la défense de Marseille a été brillante hier.
Les notes de l'équipe sont affligeantes. 3-2, 3-4.
À en trouver. Après, l'OM, c'est vrai que malgré tout ce qu'on peut dire, il reste pratiquement accroché au podium encore. C'est plutôt une bonne chose. Ils auront la chance d'affronter un Paris qui n'a pas été beaucoup plus brillant face à une autre équipe italienne, puisqu'ils sortent quand même dans...
Ça leur réussit pas le foot italien tactique.
Ça c'est clair. D'une semaine un peu difficile. Donc je pense que ces deux équipes qui ont quand même beaucoup de doutes, qui ont besoin de se rassurer, et ça peut donner un match plus ouvert qu'on ne l'imagine. L'année dernière, on pensait que ça allait être plié facilement, et finalement, l'OM a bien résisté face à Paris. Donc, c'est des fois des matchs un peu fous qui peuvent changer notre vision des choses.
Et notre soirée. Hervé, cet OM, est-ce qu'il est aussi fort que celui de l'année dernière? Est-ce qu'il peut nous surprendre autant que celui de l'année dernière, ou est-ce qu'il est plus faible?
Moi, je suis un peu inquiet pour Marseille quand même avant le match de dimanche. Parce que autant l'année dernière, je pensais que c'était le deuxième effectif, voire troisième avec Monaco de France, même avant Lyon.
Ils avaient beaucoup surpris en plus à ce classico.
Et puis, il y avait quand même des joueurs d'expérience, il y a des bons joueurs à Marseille. Et simplement, c'est toujours plus dur d'être Marseille que d'autres équipes, parce qu'on vous attend partout, c'est un peu comme Paris Saint-Germain. Mais là, je trouve que les joueurs qu'on pouvait attendre à un certain niveau, vous avez des champions du monde dans cette équipe, ils sont parvenus à jouer au football. Mandanda, c'est pas le Mandanda qu'on a connu.
Non.
Rami, malheureusement, même moi qui suis un non-connaisseur, je trouve qu'il était mauvais. Donc, y a que Thauvin. Bon, Payet aurait pu faire la Coupe du Monde. Pareil, il est pas au niveau, on pourrait l'attendre. Thauvin, seul à être là. Vous achetez Strootman, qui est considéré comme un bon joueur. On appelait la machine à laver, celui qui prenait les ballons et tout. Aujourd'hui,
25 millions
la machine
d'euros.
À laver en panne. Comme dirait Nabil Jelit, c'est pas une vedette. Donc, vous voyez, je pense qu'aujourd'hui, il y a tellement de trous dans cette équipe. Vous avez Amavi, qui était un grand espoir du foot français il y a quelques années. Ouais. Aujourd'hui, c'est une ombre de l'ombre de l'ombre qu'il était. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a plus grand chose, à part un Bounassar, qui lui se révèle.
Et en plus, il n'y a pas vraiment de relève ou de banc.
Non. Je suis très inquiet pour le match de dimanche pour Marseille. Parce que parfois, j'ai la sensation de dire, ça va être un match différent, l'impact, l'intensité, etc. L'ambiance. Mais je les vois capables de mettre, en gros, quasiment rien. Alors si Ocampo est capable de lui mettre de l'intensité, sans le talent évidemment, mais au moins il a ça, et ça c'est important, cette équipe a besoin. L'attaquant, il y a qui? Hier, Mitroglou. Mais c'est un fantôme, Mitroglou. C'est-à-dire que le seul truc qu'on peut faire, c'est essayer de lui mettre des balles dans le paquet.
Oui, mais
on n'a pas de certitude,
complètement dépendant d'un joueur.
Non,
oui.
Et il n'est pas sûr de jouer non plus.
Luis Gustavo aussi, qui est théoriquement l'un des meilleurs.
Mais c'est pas le Luis Gustavo de l'année dernière. Donc si vous avez toute l'équipe de l'OM,
c'est
son meilleur
des derniers matchs.
Ça, j'imagine qu'il peut y avoir un match. Parce que quand vous avez Strootman, Luis Gustavo, tous les deux au top, au milieu de terrain, là, ça envoie, c'est costaud. Mais malheureusement, c'est loin d'être le cas.
Rémi, il y a match ou il n'y a pas match face à ce Paris qui avale tout, hein. C'est 10 matchs, 10 victoires depuis le début de saison.
Chaque année, nous venons ici pour faire le classico corico.
Non, non, on a dit classique, mais on n'ose même plus l'appeler comme
parce
ça.
Parce que ça ne sert à rien. Depuis 2011, Marseille a été incapable de battre Paris. Donc, si on essaie de regarder seulement
dernière,
ça...
ils ont fait un bon match.
Mais attends, c'est toujours, ils ont fait un bon match, sauf qu'ils n'ont pas gagné depuis 2011. Ça fait 83 mois que Marseille n'a pas réussi à battre Paris. Ça fait 2586 jours que Marseille n'a pas réussi à battre Paris.
Et vous dites, ils ont toujours
fait un bon match. Ils ont failli battre Paris. Ils ont, cette fois-ci, à moins un. Mais regardons ce Marseille. Quand vous me parlez de ça, les conditions aujourd'hui, vous avez un Marseille qui perd contre Lille 3-0. Vous avez un Marseille qui perd contre Nîmes 3-1. Vous avez un Marseille qui prend la Lazio. C'est-à-dire que leur dose adulte, c'est 3 buts. Et justement, ça tombe bien puisque Paris Saint-Germain, c'est 37 buts en 10 matchs, ce qui signifie que ça fait justement une moyenne de 3,7 buts par match. Donc, attendons à partir de 3 buts et c'est là où on va savoir compter. Donc, à une certaine période aujourd'hui, Marseille ne parvient pas à battre le quatrième peut-être de la Série A, Marseille ne parvient pas à battre Nîmes, Marseille ne parvient pas à battre Strasbourg, et Marseille rêve battre Paris. Et il y a un proverbe africain qui dit, si tu ne parviens pas à marcher sur terre, ne rêve pas d'aller courir sur la lune.
Merci Rémi, compliqué, mais c'est vrai que ça peut s'apparenter peut-être aux espoirs marseillais. En tout cas pour Thomas Tuchel, eh bien on verra quel choix il aura pour ce match de Ligue 1 qui lui sert tellement de laboratoire d'expérimentation pour sa Ligue des Champions. Mais revenons, c'est sur la prestation un peu terrible, un peu pathétique de toutes ces équipes européennes, françaises sur la scène européenne.
Dans une petite boîte en fer, dans ma tête y a rien à faire. J'suis mal en campagne et mal en ville, peut-être un petit peu trop fragile. Allô maman bobo, maman comment tu m'as fait.
Oui, c'est bien le café des sports sur RFI. Allô, Hervé et Rémi chantent. C'est pas Patrick Juvet pourtant, non, Hervé. Vrai. Mais Hervé, alors justement, gros bobo, besoin de gros pansements pour ces clubs français. Juste, je vous donne les statistiques, j'épargne ça à Rémi.
Il lui donnera en minute, lui. Oui, je sais.
6 matchs cette semaine européens pour les équipes françaises. 3 défaites, 3 nuls. Donc pas une seule victoire, hein, si on entend bien. Et sur 18 matchs depuis le début de cette saison, ce sont seulement 3 victoires, c'est-à-dire 17% de réussite. La France fait à peine mieux que les clubs de Russie. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vraiment cette Ligue 1 est mauvaise, nulle? Est-ce que cette France qui quand même a des centres de formation de renom et qui n'arrive pas ensuite à avoir des clubs...
Qui est championne du monde.
Mais il joue pas en France.
C'est le seul joueur.
Kylian Mbappé. Alors, bon, c'est des cas, à mon avis, c'est un peu des cas à part. Mais il y a une généralité, dans sa globalité, le championnat de France, de toute façon, baisse d'année en année, à mes yeux. Parce qu'à partir du moment où vous perdez vos meilleurs joueurs, sauf le Paris Saint-Germain, évidemment, qui peut se permettre de racheter Mbappé, par exemple, à Monaco, inévitablement, vous perdez. Moi, je suis Lyon, par exemple. C'est depuis 2 ans, enfin, c'est ma deuxième saison. J'ai suivi Lyon au début des années 2000, c'est incomparable, il n'y a quasiment pas un joueur qui serait titulaire à l'époque. Et pourtant, tout le monde me dit, oh Lyon, quelle équipe, quel talent, c'est des joueurs qui ont un an de Ligue 1.
C'est la Ligue des talents pourtant,
oui,
non
la Ligue des talents, c'est des petits talents, c'est des talentinos,
c'est la Ligue des talents de venir alors.
Mais là où je dis qu'il faut mesurer un petit peu, on verra un peu plus tard, parce que vous savez, comme dirait Giroud, c'est
la vérité d'un jour.
Ouais, c'est la vérité à la fin du bal qu'on paiera les musiciens.
De la foire qu'on compte les bouts.
Voilà, lui il allait plutôt sur cette logique, moi je suis resté musical, musical dans les métaphores. Mais donc, sur ce qui s'est passé cette semaine, vous pouvez toujours avoir le PSG se qualifiant pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. C'est pas terminé. Je pense qu'ils auront là des possibilités à Naples. Peut-être que Naples va devoir aussi se découvrir un petit peu.
Oui, et Paris, on sait jamais. Paris rêve grand. Continuez.
On verra.
Surtout Lyon qui bat Liverpool.
Absolument. Ah non, mais de toute façon, rien n'est fait. Lyon, c'est pas terminé pour Lyon non plus. Parce que Lyon, il faut pas oublier, parce que j'ai l'impression que tout le monde les enterre. Mais ce qu'ils font à Hoffenheim, en soi, c'est pas un mauvais résultat. Et faire match nul chez un adversaire direct.
On peut être d'accord avec Jean-Michel Aulas qui dit que c'est un des meilleurs résultats.
Non, il se moquait de l'entraîneur allemand.
Oui, et puis il a bien joué la chose. C'est-à-dire qu'en fait, il a attiré l'attention à lui. Résultat, c'est vrai que le parcours de Lyon est le seul potable quand même.
Alors, qu'ils ont quand même joué 2 fois à l'extérieur et ils ont 3 points d'avance sur les 2 autres candidats qui sont Donetsk et Hoffenheim. Alors, on peut pas me dire, parce que j'entends les commentaires sur Lyon, j'ai l'impression l'impression, on me dit c'est catastrophique à Hoffenheim. Mais pourquoi? Parce qu'ils pensent que Lyon c'est le Real Madrid.
Mais
Lyon,
mais dans l'ensemble, Hervé, qu'est-ce qui manque au club?
Eh ben, il manque du talent.
Des vrais talents purs, des hommes, quoi.
De la qualité, mm-hmm. tout simplement. C'est-à-dire, quand vous voyez une équipe comme Bordeaux, c'est une équipe très moyenne, qui est en plus en grosse difficulté
oui,
en France.
Oui, mais quand même, on peut pas dire mais que Dynamo Bordeaux Kiev. soit inférieur en talent Kiev. À Copenhague ou à Slavia Prague.
Ah, tout à fait.
Ou au Zénith de Saint-Pétersbourg.
Là, je suis d'accord. Mais Zénith Saint-Pétersbourg, leader du championnat de Russie. Moi, je pense que le leader du championnat de Russie est meilleur que le huitième du championnat de France. Et de loin. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup plus de... Alors, on parlait de moyens et de
enfin,
qualité.
Faire zéro point dans un groupe pareil, c'est quand même d'accord. pas uniquement un problème de talent.
C'est des échecs, c'est des vrais échecs. Et je pense qu'il va falloir mettre aussi en cause la manière de préparer ce genre de match.
Jean-Philippe.
Ça, c'est sûr. Mais ça date pas de cette année. Non. Ça fait au moins 10 ans.
Il y a 15 jours déjà, on en a parlé.
On a eu un effet un peu particulier avec Marseille qui est allé en finale l'an dernier. Mais sinon, la Ligue des Champions, les clubs français, globalement, n'ont pas le niveau pour aller loin. C'est ça, c'est clair. Parce qu'ils font pas partie du top 12 européen, ça c'est enfin, à part le PSG, mais sinon la Ligue Europa, il ne la joue pas depuis 15 ans.
Moi, je pense qu'il la joue. Marseille hier, ils alignent l'équipe type.
Bah oui, quand même.
Il la joue. Le problème, c'est qu'il y a un problème de niveau.
Oui, mais quel est le rendez-vous pour Marseille qui va être vu ou dont on leur parle? Ça compte aussi. De quoi on leur parle depuis 15 jours? Du Classico, on leur parle pas.
Je pense que le match à Lazio, ils étaient dans les vraiment en tête.
Parce
que
même pour. Puis au nom de ce qu'ils ont fait l'année dernière, il y avait une envie peut-être de le confirmer.
Ce que je veux dire, c'est que l'ambiance en France, l'ambiance générale autour de la Ligue Europa, les clubs ne sont pas concernés. C'est pas nouveau. C'est vraiment.
Moi, je pense que c'est récurrent. Ouais, mais je pense que c'est une excuse un peu donnée trop facilement au club. Je pense qu'il y a un vrai problème de travail et de niveau sur ce genre de match.
Rémi, rapidement.
Facile de dire qu'ils pensent au Classico, mais ça fait 1 point sur 9. Donc, ils ne pensaient pas au Classico depuis les autres là, les autres matchs. C'est 1 point sur 9. Et quand on essaie de regarder sur le plan général, c'est-à-dire que depuis le début de la compétition, les clubs français, à l'indice UEFA, ont gagné 4750 points. Ce qui veut dire que les clubs français, actuellement, s'il fallait faire le classement UEFA sans tenir compte de 5 dernières années, la France serait 9e à l'indice UEFA.
Et Lyon derrière, a battu City.
C'était pas prévu. Et derrière qui? Derrière la Serbie, derrière l'Écosse, derrière la Norvège, la France, derrière la Norvège.
Donc
et
c'est
tous
logique.
Ces pays-là.
Donc les résultats sont logiques.
Pour moi, les résultats sont logiques. À une certaine période, les clubs français n'ont pas de niveau point.
Alejandro, pour terminer.
Bah moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que je pense que Rennes, par exemple, hier, ils jouaient devant un stade plein avec beaucoup d'envie face au Dynamo Kiev. Finalement, ils perdent. Donc, je pense pas qu'il y ait une démission des clubs français. Je pense que mentalement, ils ont peut-être du mal à franchir ces genres d'échéances internationales.
C'est un problème de niveau.
On y reviendra certainement parce qu'il y aura.
Dans 15 jours, ça paraît. Et là, dans 15 jours, on va arriver. Alors après, les 6 victoires françaises, est-ce que la France a
réglé la chaise? Il y a aussi un effet qui est terrible en ce moment, c'est que des clubs français se monnaient, se vendent à des sommes assez élevées.
À l'étranger.
On voit que le club, le foot français intéresse à l'étranger. Il n'y a plus pas seulement le PSG, Marseille, maintenant, enfin bon, appartient à des intérêts étrangers. Mais sauf que les résultats sur la scène européenne sont consternants. Donc l'effet de ciseaux, il est violent, là.
C'est vrai. On va continuer à parler de football. Cette fois-ci,
on va revenir au football. Parce que là, on parlait des clubs français. On va parler au football.
Sous le prisme de la FIFA.
Radio Foot International. Annie Gasnier.
On en avait beaucoup parlé cet été de ce match de Liga qui devait se disputer, qui doit se disputer, qui pourrait se disputer en territoire étranger pour aller, eh bien, séduire un autre public. Apparemment, ce serait pas encore pour demain, ce fameux Girona-Barcelone programmé le 26 janvier prochain pour se disputer à Miami, donc en Floride aux États-Unis. Les statuts de la FIFA ne permettent pas cela. C'est ce qu'a dit, en tout cas, Gianni Infantino ce matin à Kigali à l'issue d'un conseil exécutif.
Pour ce qui est de la question de la délocalisation de la Liga et bien sûr pour la saison en cours, j'ai suivi la requête d'orientation de la Fédération espagnole, de la Fédération américaine et de la CONCACAF. Le conseil de la FIFA s'est penché sur cette question et sur cette proposition d'accueillir une rencontre du championnat espagnol hors d'Espagne et à Miami en particulier. Le conseil a souligné le fait que les matchs officiels du championnat doivent se dérouler sur les territoires des pays concernés. Le Conseil a été très clair sur ce point.
Apparemment, la polémique, cependant, peut continuer, Alejandro, parce que le fameux Javier Tebas, qu'on connaît, président de la Liga, eh bien, il a décidé de faire un recours auprès du tribunal arbitral du sport.
Oui, en fait, en Espagne, on a vraiment deux personnalités très opposées à la tête du football. Il y a d'un côté Rubiales, le président de la fédération, qui est un homme qui vient du syndicalisme et qui est très intègre. On l'a vu même à la Coupe du Monde, capable de virer les sélectionneurs à la veille de la Coupe du Monde parce qu'il l'a pas respecté ou il a signé un contrat sur son dos. Donc c'est quelqu'un de très droit. Et d'un autre côté, on a Javier Tebas, qui est un homme qui est une machine à fric, quoi, qui pense tout le temps comment monnayer au mieux et faire de la Liga espagnole le championnat le plus riche, et qui a plein d'idées, et qui séduit souvent les clubs espagnols par ses idées, et qui avait réussi à obtenir leur soutien pour aller disputer un match, donc, de championnat à Miami. Et ben, on dirait qu'aujourd'hui, la balance penche plutôt du côté des Rubiales et de la fédération, qui est totalement opposée à cette idée, et qui a obtenu, donc, un soutien important, en obtenant que la FIFA rappelle fermement que les matchs des championnats doivent se disputer dans les territoires nationaux. Donc Tebas ne veut pas céder, il a signé un contrat qui est très important pour lui, et voilà, et donc il va se battre jusqu'au bout, mais là la bataille paraît quand même bien mal partie, car les clubs vont quand même se poser beaucoup de questions, ils risquent quand même une sanction en cas de non-respect du règlement de la FIFA, donc je pense que c'est mal parti pour ce projet.
Jean-Philippe,
il était temps qu'on mette un peu un terme à ce genre de pratique, parce que on a vu quand même des matchs se tenir à minuit ou à midi, justement pour satisfaire
des retransmissions de
télévision étrangère. Enfin bon, voilà. Donc on commence quand même à mettre en péril la santé des joueurs, parce que se faire un voyage en avion de 6 ou 8 heures jusqu'à Miami pour revenir, enfin bon, c'est quand même ils ont des emplois du temps compliqués. Hein, on sait bien que c'est souvent après des longs voyages en avion qui se blessent. Enfin bon, bref. Et puis un mercantilisme forcené comme ça qui doit quand même à un moment s'effacer devant l'intérêt pour le jeu.
Hervé.
La seule chose, moi, qui me gêne, c'est que ce soit quand même Infantino de la FIFA qui ne pense qu'à refaire des nouvelles compétitions pour faire un peu d'argent.
Je suis d'accord.
M'expliquer.
On se disait, en fait, avec Tebas, ils ont le même combat.
Ils s'achètent. Bah, ils s'achètent
une sorte de virginité, une vertu. Ça, c'était exactement ça. Malheureusement, moi, ce que j'avais déjà dit aussi ici, c'est pas que je suis pour ou contre. Moi, à l'arrière, mon avis importe peu, mais simplement, à partir du moment où on fait la chasse au fric de manière permanente, que les joueurs veulent le plus de fric possible. Rappelez-vous Piqué, qui était contre, qui disait, mais c'est scandaleux de faire ça. Mais lui, quand il va dans le tennis, ça lui pose pas de problème de dire ben finalement la finale de la Coupe Davis, on va la décaler en septembre parce que comme ça on va pouvoir utiliser, enfin parce qu'il s'occupe d'une société de production, ouais, je sais pas pourquoi, de chaîne de télé, et comme ça on va organiser, on vous donne tant de millions de dollars et puis jouer à cette époque-là. Donc ça veut dire que lui, quand il passe de l'autre côté de la barrière, il trouve tout à fait normal de faire à peu près ce qu'on veut des sportifs, et maintenant qu'il est encore footballeur, il se dit mais on est quand même des sportifs, on fait pas ce qu'on veut de nous. Ben voilà, moi c'est ce qui me gêne, c'est qu'on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, la crémière, la fille de la crémière, la ferme
et la santé
tout,
des joueurs.
Et puis d'un autre côté, venir se plaindre. Il faudrait que les joueurs, moi je serais tout à fait d'accord pour qu'ils disent on veut pas aller jouer ici.
Mais ils avaient
pas
dit d'ailleurs cet été, on se souvient de Ramos et Piqué qui étaient allés réclamer contre ces matchs.
Ce que je disais, et Piqué par contre quand c'est ça le concerne, n'est pas du tout d'accord avec ça. Donc c'est pour ça que je voudrais un peu de cohérence chez les joueurs, et ben qu'ils demandent un peu moins d'argent de temps en temps, et puis pourquoi pas.
Alejandro, justement ces compétitions que voudrait qu'a imaginé Infantino, pour l'instant stand-by, c'est-à-dire c'est remis à plus tard.
Oui, il a pas voulu forcer les Européens qui étaient totalement contre. On est toujours dans une espèce de logique mercantile, mais il faut quand même se dire que la FIFA, n'est pas pour défendre Infantino, mais quand même la FIFA plaide aussi le fait que beaucoup des grands clubs européens aujourd'hui monnaient très bien leurs compétitions, y compris en Asie, en Afrique, en Amérique, etc., et gagnent beaucoup d'argent sans partager cela avec les autres, alors que la FIFA essaye peut-être de créer des compétitions aussi pour gagner de l'argent, mais que la FIFA, au moins, en distribue une bonne partie, sûr. Et ça c'est aussi
si c'est quelque chose qu'il faut. Il y a quand même derrière cette création de nouvelles compétitions à tout va et ces nouveaux projets, on voit quand même assez clair derrière le jeu d'Infantino, c'est quand même il achète Blatter achetait des voix.
Voilà,
là il achète aussi sa notoriété, des voix et la paix, enfin voilà,
et du soutien
de la part des
Oui, il a déjà fait passer la Coupe du monde de 32 à 48,
voilà, des associations membres et tous ces gens-là vont tous les gens qui vont accueillir des compétitions, qui vont accueillir des nouvelles dates du calendrier, lui seront d'une certaine façon redevables de ça. Et donc on voit quand même assez clair dans sa stratégie, sauf qu'il y a un moment si on multiplie les compétitions, le football devient illisible. C'était la force du football historiquement de s'appuyer sur deux jambes, les compétitions de club et les compétitions d'équipe nationale, avec des rendez-vous très clairs, très précis et réguliers. Il y avait un calendrier qui a mis des années à être cohérent et à bien fonctionner, et là on est en train de bouleverser tout ça, et ça se fera forcément au détriment
c'est vrai que la formule actuelle du mondial des clubs ou de la coupe des confédérations
n'est pas satisfaisante,
n'emballe personne, donc il faut quand même faire évoluer tout ça.
On aura donc sûrement l'occasion d'en reparler. Allez, direction les cartons du jour.
Carton jaune.
Un carton là. Qui sort un carton jaune.
Ouh là 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 là, carton rouge.
Carton rouge.
Dans la confusion.
Carton vert.
Extraordinaire.
Rien à dire.
Hervé, allez, à vous là.
Ah ben vous savez, moi je suis un bon cœur. Donc ce sera un carton vert. Et carton vert à Jérémy Morel. Voilà, et Malagascar.
Le défenseur de Lyon.
Le défenseur, puisque son entraîneur a annoncé qu'il l'avait lui-même contacté pour lui demander s'il y avait possibilité d'intégrer l'équipe de Madagascar, puisque son père est malgache. Et évidemment qu'à Madagascar, on sait aussi qu'il y a beaucoup de Réunionnais, hein, parce que lui vient de la Réunion. On sait qu'il y a beaucoup de Réunionnais dans l'équipe, d'origine réunionnaise dans l'équipe malgache. Et ben moi, je trouve ça m'a fait vraiment plaisir, et de me dire qu'un joueur comme Morel, va disputer une CAN. Hein, c'est quand même un truc énorme.
Il va renforcer les rangs.
Et en plus, comme c'est un type qui a un super état d'esprit, parce que c'est pas simplement le joueur qui viendrait en se disant je vais faire un pour me montrer une dernière fois. Non, je pense qu'il a envie de porter les maillots d'une sélection nationale. Il en a la possibilité. Il a vu que d'autres l'ont fait, venant aussi avec des origines malgaches. Et ben moi je trouve ça génial et je suis très content de pouvoir le voir en 2019 en juin.
Et ben deuxième carton vert.
Pas où encore.
Ah là j'ai pas dit où, je veux me fâcher avec personne.
Un deuxième carton vert pour ces Baréas, ces Zébus de Madagascar, parce que ils ont décidé d'offrir leur prime de match à une école. C'était la prime de qualification de Madagascar à la CAN, à l'école polytechnique d'Antananarive. En fait les joueurs quand ils étaient sortis du stade, il y avait une énorme manifestation, ils avaient mis du temps à rejoindre le centre-ville parce que les élèves se plaignaient d'un manque de matériel, d'un manque d'électricité et tout. Alors autour de 1000 euros ou un peu plus,
1000 euros,
est reversé à cette école. Super. Ils ont fait un don. Jean-Philippe Bouchard.
Moi, je poursuis la discussion de tout à l'heure en mettant un avertissement, un carton jaune à Gianni Infantino, parce que justement, on a vu un début de levée de bouclier. Lui-même a dit qu'il y aurait une commission qui est à étudier tout ça, donc ça prouve qu'il sent un petit peu que comme dirait Adil Rami, il faut qu'il marche à l'ombre et sur des œufs. Donc voilà, avertissement, attention, n'allons pas plus loin.
Attention aux non-connaisseurs du football. Hein.
Rémi, est-ce que vous avez un carton?
Le carton rouge de ma page Facebook a été choisi par Tata Matumuna, qui l'offre donc à l'entraîneur d'Al Masry. Et ces joueurs qui, bien sûr, sont partis se comporter comme des francs campagnards dans le vestiaire du stade des Martyrs, où ils ont été accueillis par l'AS Vissa Club de Kinshasa. Donc, c'était, bien sûr, un match de demi-finale retour de la Coupe de Confédération africaine.
On en a parlé.
Ils ont été
éliminés 4-0.
4-0. Donc, finalement, ils ont été
très mauvais esprit.
Malheureusement, très mauvais esprit. Comme le dit un proverbe africain, tu invites le cochon dans ta maison, il s'en va en laissant des croûtes.
Ah, vous allez vous faire des amis en Égypte.
Je n'ai pas assez d'amis partout.
Alejandro, Valente, pour terminer.
Un carton vert à Marcelo Bielsa, le fou. On a beaucoup parlé de Marcel aujourd'hui, qui a fait un petit geste très généreux, puisqu'il a donné 2,5 millions de dollars à son ancien club Newell's Old Boys pour contribuer, disons, à l'amélioration de son quotidien dans ce moment de crise en Argentine.
Et voilà, on y arrive tout doucement. C'est la fin de ce Radio Foot International. N'oubliez pas ce week-end Mondial Sport, hein, le rendez-vous des sports le week-end, le soir à 21h30 en temps universel, le samedi et le dimanche avec nos confrères du service des sports. C'est la fin de ce Radio Foot, de ce café. Merci messieurs. Merci aussi à David Finzel qui m'a aidé à préparer l'émission. Pierre Guérin aussi qui m'a aidé. Laurent Salerno était aujourd'hui à la réalisation. Et on vous dit à lundi après les Classicos. Thank you.